Bonjour à toutes et à tous, ici Fanny et on se retrouve aujourd'hui pour parler de Morgane Le Fay, la dame d'Avalon. J'ai énormément de plaisir à faire cet audio et à vous parler d'elle, de ses mystères. Et comme je vous le disais dans l'introduction de la page de cet audio juste au-dessus, le corpus des légendes arthuriennes est vraiment complexe, en particulier à cause de l'évolution des personnages qui peuvent passer parfois de héros à ennemis, dont l'arbre généalogique peut changer parfois radicalement, ou même par exemple avoir une même aventure mais qui est conduite par un autre personnage. Il y a même, selon les versions, différents chevaliers qui découvrent le Graal, par exemple Galahad ou Perceval. Mais ici, nous allons nous intéresser à la figure de Morgane dans ses textes, son évolution, pour essayer de trouver qui elle est réellement, mais surtout, quand il s'agit de ce genre de présence, plutôt essayer d'aller voir leur enseignement, les outils également qui peuvent nous mettre à disposition pour, en fait, non pas chercher à ce que notre ego se connecte avec ces forces-là, ces intelligences-là, nourrir notre ego spirituel, mais plus pour suivre les enseignements afin de devenir une personne plus complète et d'intégrer tout simplement. Alors, le premier livre qui nous permet de rencontrer celle que l'on appelle Morgane la Fée ou Morgane la Fée ou Morgane le Fay a été écrit donc vers environ 1150 par un moine mais gallois qui s'appelle Geoffroy de Monmouth. Il s'agit du livre de Merlin. Et dans cet ouvrage, on découvre une Morgane qui est guérisseuse, astrologue et magicienne. Elle est capable en effet de pure magie, comme surtout de se changer en oiseau et de voler, de s'envoler, rien de moins. Avec ses 8 sœurs, elle est censée régner sur l'île légendaire d'Avalon, où elle veille désormais sur le sommeil du roi Arthur. Mais comme je vous le disais, au fil des versions, Morgane va changer. Une vingtaine d'années plus tard, le romancier français Chrétien de Troyes, celui qui est le plus connu dans l'écriture des légendes arthuriennes, va présenter Morgane sous une forme différente, c'est-à-dire qu'il va faire d'elle une princesse. La voici désormais royale. Alors, elle est toujours guérisseuse, elle est toujours très talentueuse. Mais il est précisé, cette fois, son ascendance royale. Elle est fille d'Igraine et du duc de Cornouailles, ce qui fait désormais d'elle la sœur d'Arthur. Donc, les versions ensuite sont différentes. Ils la font tantôt vivre librement avec ses divers amants, qui sont nombreux, ou alors tantôt épouser Urien ou même le roi Lot. Mais qu'elle soit fée ou princesse, elle est à chaque fois une élève talentueuse de Merlin qui est célébrée pour ses capacités hors normes et son immense savoir. Elle utilisera même ses pouvoirs pour créer le fameux Val sans retour, hein, qui est un épisode très intéressant des légendes arthuriennes. C'est une vallée qui échappe comme ça un petit peu au temps humain, donc avec un temps particulier, et qui fait prisonnier les chevaliers infidèles qui traversent cette zone-là, mais qui seront finalement délivrés par Lancelot. Pourquoi créer Morgane un tel sortilège si spécifique? C'est parce qu'elle a de grandes valeurs, elle ne tolère ni mensonges, ni parjures, ni crimes, et on peut voir que son caractère comme ça est très impérieux, très impérial, et qu'elle tient aux valeurs réelles de la chevalerie. Cependant, cette histoire-là du Val sans retour est parfois mal interprétée, avec un Lancelot qui va vraiment s'énerver contre Morgane et trouver que c'est une sorcière malsaine, alors qu'à la base, elle est là pour aussi montrer à quel point certains chevaliers ne sont pas du tout fidèles aux valeurs de la chevalerie, justement. Mais plutôt que, du coup, voir son geste comme quelque chose qui est là pour démontrer une réalité, on va plutôt s'attaquer au fait que c'est quelqu'un qui est plein de ressentiments et finalement, on va pas s'attarder au message qu'elle délivre par cet acte-là, mais plus par la peur qu'elle est capable de le faire et de s'en prendre à des hommes et des chevaliers. Avec les versions et avec le temps, parce qu'elle est capable d'actes absolument incroyables, on va faire en sorte que son personnage aime de plus en plus le pouvoir au point de vouloir tout simplement régner à la tête de l'Angleterre, à la tête, enfin peut-être pas de l'Angleterre, mais au moins du royaume d'Arthur de Camelot. Du coup, oui, elle était déjà devenue princesse lors d'une écriture, alors finalement, pourquoi ne pas aller plus loin, puisqu'elle a le pouvoir magique, alors il lui reste plus que vouloir le pouvoir humain, et à partir de là, son image de fée se dégrade vraiment très, très, très nettement. Sa jalousie augmente, on l'a dit amoureuse de Lancelot, et donc cherchant continuellement à se venger de Guenièvre. Ce qui est finalement assez troublant peut-être pour la magicienne créatrice du Val sans retour parce qu'elle supporte pas les chevaliers non loyaux. Donc la voir tomber amoureuse du chevalier finalement le moins loyal à Arthur, celui qui peut faire le plus de mal en fait à ce que Arthur est en train de concevoir, eh bien c'est parce que, voilà, précisons, hein, parce que en fait Lancelot trompe Arthur avec Guenièvre. Je l'ai mal dit, mais c'était dans la notion de loyauté par rapport à Arthur. Hein. C'est bien sûr Guenièvre qui trompe Arthur avec Lancelot. Et finalement, par rapport aux valeurs comme ça que témoigne Morgane, ça semble très 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 paradoxal qu'elle donne son cœur à un chevalier finalement qui n'est plus dans ses valeurs de chevalerie. Et dans les toutes dernières versions, dans les derniers moments, eh bien, elle devient carrément l'ennemi d'Arthur, absolument déterminée à le détruire sans véritable raison, juste, oui, de ce besoin de pouvoir, de régner. Et du coup, au fur et à mesure des réécritures, on voit que de fée, elle est devenue sorcière maléfique, absolument assoiffée de pouvoir. Donc, adieu la Dame du Lac, bonjour la future reine cruelle. Mais finalement, si on y réfléchit bien, donc si on se met, là on ressort un petit peu des histoires et on regarde le contexte, eh bien on peut voir que Morgane, c'est une figure, un archétype qui représente les croyances barbares, l'héritage celtique, où les humains ne maîtrisaient pas encore les forces de la nature, mais plutôt vivaient avec elle et se conjuguaient, donc il y a quelque chose de très animal, hein, vivre comme ça. Et elle va donc être l'opposé direct de son frère Arthur, qui est le roi chrétien, le roi moderne, le représentant de l'ordre féodal, et en fait qui est le symbole du monde civilisé. Il envoie ses chevaliers qui doivent purifier les lieux les plus reculés de Bretagne afin justement de dominer cette nature hostile et menaçante. Ce monde étrange qui est peuplé de créatures ténébreuses, inquiétantes, magiques, et qui est en fait le monde de Morgane finalement. Mais malgré tout, malgré ces réécritures, ses traits les plus forts, ses traits de caractère les plus anciens de ce qu'elle est vraiment en essence, ne peuvent pas être gommés. Et à la fin de l'histoire, peu importe les versions, elle revient chercher Arthur mourant pour l'emmener guérir sur l'île d'Avalon. Et sous cette forme-là, elle reste l'éternelle guérisseuse, l'herboriste, la femme de grand talent, la magicienne qui parle aux fées et aux dragons. Elle reste la gardienne d'Avalon. Et c'est d'ailleurs ainsi que la dépeint les auteurs un petit peu plus contemporains qui veulent réécrire du coup les légendes arthuriennes, notamment du coup Marion Zimmer hein, dans ses Brumes d'Avalon, qui est absolument culte parce qu'elle regarde ces légendes-là du point de vue des femmes, et notamment du point de vue de Morgane, où elle montre en fait que après son apprentissage, c'est Morgane qui devient la nouvelle Dame du Lac. Donc la Dame du Lac, c'est un titre, c'est-à-dire qu'elle devient la nouvelle grande prêtresse d'Avalon par rapport à son talent, parce qu'elle le devient très très jeune avant d'autres. On peut voir dans ses traits de caractère, dans ses notions archétypales et dans son histoire finalement, un petit peu les mêmes traits que ceux de Marie-Madeleine, c'est-à-dire une femme de talent, une maîtresse des herbes et des huiles sacrées, destinées, dans le cas de Marie-Madeleine, à l'onction magique, donc à guérir un petit peu notre relation au spirituel. Donc toujours cet aspect-là de guérisseuse avec, les herbes. Donc un attrait de femme sauvage qui vit dans la nature, en cohésion avec la nature, qui s'en sert et qui va peu à peu être salie, son histoire et son image entre du coup ben, Marie-Madeleine qui devient la prostituée et Morgane Le Fay qui devient la sorcière, hein, qui a des actes de sorcellerie, qui devient l'ennemi de la civilisation. Et c'est intéressant de voir que comme Marie-Madeleine, Morgane est aussi reliée à la mer. Hein. On en a beaucoup parlé du lien des Maris avec la mer, et même de Merlin avec la mer. Et Morgane, son nom signifie née de la mer, et elle est l'élève de Merlin. Donc, à n'en pas douter, elle fait partie de cette lignée-là de prêtresse de la mer. Et elle va prendre le grand titre de grande prêtresse d'Avalon parmi les autres, hein, que ce soit les prêtres ou ses sœurs, donc le titre de dame du lac. Et il est certain en fait que, en tant que femme de la lignée des mères de grand talent et dame du lac, eh bien, Morgane Le Fay n'est autre qu'une autre sœur de la rose, qui vient en plus nous enseigner à soigner la blessure ici de vulnérabilité. Donc une autre sœur de la rose encore aujourd'hui pleine de paradoxes et qui semble comme ça danser entre ombre et lumière selon les versions, selon l'idée que l'on se fait d'elle et qui généralement soit nous passionne, on a vraiment envie de la connaître et de connaître ses secrets, ou alors qui est tout à fait rejetée, un petit peu comme longtemps Marie-Madeleine l'a été. En tout cas, elle est fascinante, c'est une magicienne fascinante qui se présente ici en tant que grande prêtresse d'Avalon et en tant que guide pour eh bien, éclairer ce quatrième chemin du labyrinthe, donc pour nous aider à guérir la blessure du cœur entre ombre et lumière, et nous allons passer du coup à une recherche de shadow work pour savoir eh bien, vos propres ombres, vos propres lumières, et puis nous passerons à d'autres exercices, à d'autres questionnaires également, pour un petit peu identifier qu'est-ce que cette ombre et cette lumière ont engendré, ou en tout cas, si elles ne sont pas la source de notre blessure, hein, elles sont la source du fait qu'elle est voilée. Voilà, je vous souhaite eh bien, une très bonne continuation et puis je vous dis à très vite pour la suite avec du coup ce questionnaire de Shadow Work. À très vite!